Salut, c'est Ziad Malouf de l'Atelier des médias. Seconde émission cette semaine enregistrée à N'Djamena. Nous sommes au CCU, Centre catholique universitaire, une institution qui célèbre ses 25 ans. 25 ans, c'est probablement l'âge moyen de nos invités aujourd'hui. Je dis invités, mais l'expression n'est pas totalement satisfaisante. Les 5 jeunes hommes qui vont nous parler pendant près d'une heure sont des mondo-blogueurs tchadiens. Nous comptons dans ce pays une bonne douzaine de contributeurs actifs de notre plateforme Mondoblog, et j'ai l'honneur d'en avoir quelques-uns avec moi. Comme tous nos mondoblogueurs, leur place n'est pas bien sûr en tant qu'invité, mais au générique de cette émission, car ils en sont l'âme.
L'Atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous, vous.
Ils s'appellent Mahamat, Salim, Ali, Patrick et Emmanuel depuis 4 ans pour Salim et quelques mois pour les 4 autres. Ils font partie des blogueurs sélectionnés et soutenus par RFI. À l'occasion de notre passage par la capitale tchadienne, nous avons été témoins de leur dynamisme. Nous connaissons déjà leur talent grâce à leurs écrits disponibles dans le monde entier grâce à Internet. Rencontre donc avec 5 garçons tchadiens comme les autres qui ont choisi, eux, contrairement à beaucoup, de s'emparer des possibles de l'Internet pour partager leur pays, leur quartier, leur vie avec les citoyennes et les citoyens du monde entier. Je signale que nous comptons aussi des blogueuses au Tchad, Grace et Rendojo notamment, mais elles n'ont pas pu se libérer. Toutes mes excuses à celles et ceux qui, comme moi, ont toujours un souci de représentativité des deux sexes dans les médias.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Let's go.
Bonjour Salim Azim Hassani.
Bonjour Ziad.
Tu es un historique, toi, de Mondoblog. Ça fait 4 ans que tu as rejoint notre plateforme.
Oui, ça fait depuis courant octobre 2010 que j'ai rejoint Mondoblog.
Ton blog s'appelle le blog du Geek du Sud. Le Geek du Sud, c'est ton surnom, c'est ton nom sur Twitter.
Oui.
Et l'URL de ton blog est une référence à un autre moment de ta vie, c'est lacoquette.mondoblog.org.
Oui, Ziad, la coquette en mémoire à la ville dans laquelle je vivais, Bangui. Donc Bangui qui s'appelle Bangui la coquette.
En Centrafrique?
Oui, j'ai cherché un nom assez original et j'ai trouvé juste la coquette. La coquette pour dire comment je me suis entiché avec Bangui, comme je l'ai dit un peu sur mon blog. Et au début, j'ai raconté un peu ma vie d'expat tchadien à Bangui. Et aussi les liens que j'avais à Bangui, les petits coins, les petits endroits que j'aimais. Et de temps à autre, j'ai touché un peu à la politique, à la société, l'éducation. Et donc, depuis que je suis rentré, donc, comme tout le monde le sait, avec la crise qui est en cours.
Tu as été obligé de quitter la capitale de Centrafrique?
Oui, je me suis vu obligé de quitter. Donc, c'est depuis le début de l'année, de cette année, que je suis parti de là. Et du coup, le titre qui était Un regard sur Bangui la coquette ne collait pas trop avec ce que j'écrivais. J'ai décidé de renommer le blog comme étant le blog du Geek du Sud, tout simplement en référence avec mon pseudonyme sur Twitter.
On va parler dans un instant de certains des articles que tu as publiés. Ça nous donnera une idée du contenu qu'on peut trouver sur ton blog, notamment depuis que tu es retourné au Tchad. Avant cela, quelle est ton expérience de 4 ans de blogging sur cette plateforme, et d'ailleurs plus généralement même de blogging?
Plus généralement, au début, moi je bloguais depuis 2007. Et c'était un peu des poèmes, des humeurs que je postais.
Je précise que tu es informaticien de profession. Hein.
Effectivement, je suis informaticien, administrateur système et réseau. Et on ne le sent pas trop sur mon blog parce que je n'en parle pas trop de ma vie professionnelle. Sur mon blog, j'ai décidé de parler un peu plus tôt de la société, comme je l'ai dit. Et surtout, quand j'ai rejoint le projet Monoblog, ça m'a permis d'utiliser le blogging comme moyen d'expression et aussi de temps à autre comme moyen de dénonciation. Donc, avec Mondoblog, ça fait déjà 4 ans et plein d'expériences, plein de projets qui m'ont poussé, d'où déjà, on peut dire un peu, c'est ce qui m'a conduit à rejoindre le Wenaclabs, à le lancer avec ce mondoblogueur et les Jerry Klaner.
Les Jerry Klaner et le Wenaclabs, on en a parlé la semaine dernière. Donc le Wenaclabs, c'est un laboratoire, un lieu, un collectif qui vise à développer les technologies de l'information et de la communication, qui a d'ailleurs été co-créé par plusieurs des personnes qui sont à cette table, plusieurs mondoblogueurs. Et les Jerry Klaner, d'ailleurs, ce sont ces personnes qui fabriquent des ordinateurs avec des jerrycans, avec des objets du quotidien et avec des pièces de récupération.
Oui, tous les monoblogueurs ici présents font partie du collectif Venac Labs. Et Venac Labs, c'est un laboratoire d'idées orientées vers l'action. C'est-à-dire, on ne va pas attendre qu'Internet arrive, on ne va pas attendre que l'électricité arrive, il faut aller avec les moyens de bord.
Tu as été, toi, moteur dans le développement du blogging au Tchad, d'une certaine manière, et à l'intérieur du pays, parce que souvent, on va peut-être y revenir avec un de tes billets que je vais citer, les blogueurs tchadiens sont à l'extérieur du pays, c'est ça? Tu confirmes, tu as été moteur?
Oui, je le confirme, parce que moi, je me suis rendu compte que aujourd'hui, le blogging au Tchad est utilisé beaucoup plus par, je dirais, les politiques militaires. Et du coup, le blogging a fait une mauvaise entrée au Tchad et les autorités le perçoivent comme un moyen utilisé juste par les agitateurs. Ce qui fait qu'être blogueur au Tchad n'est pas très, très bien perçu. Et même déjà, nos parents, nos amis ont un peu peur quand on se dit blogueur et tout. Mais ça devient plus rassurant quand les gens nous lisent. Quelqu'un comme Dr. Tux qui poste un article comme les taxis de N'Djamena, des boîtes de conserve roulant. On parle de ce qui nous entoure, on parle de ce qui nous fait mal, on parle de ce qui nous plaît. On est ouvert au monde, en fait.
C'est-à-dire qu'on parle de politique, puisque la politique touche à tout, mais sans parler de politique au sens
activité
politique, discours, homme politique, etc.
Voilà, effectivement.
On parle du quotidien de chacun et des difficultés au quotidien.
Oui.
Et ça, c'est important.
Et nous sommes loin de faire du blogging couché, comme le prétendent certains de nos détracteurs.
C'est-à-dire du blogging couché, révérencieuse vis-à-vis du pouvoir.
Effectivement. Et les gens, ils pensent qu'à travers nos biais, comme nous ne sommes pas agressifs, ils pensent que nous caressons plutôt le pouvoir et qu'on joue le jeu du pouvoir. Or, loin de là, nous, on suit juste une passion qui est la nôtre, de dire nos réalités, d'utiliser les moyens qui sont les TIC pour nous exprimer. Parce que le blogging, ça contribue énormément à l'éducation, à la santé, à toute une vie socio-économique, par exemple.
Je vais d'ailleurs donner à entendre des passages des différents blogs des personnes présentes ici. Et chacun pourra juger si vous êtes révérencieux ou irrévérencieux à l'égard du pouvoir. Je vais commencer avec toi. Alors là, on passe en Centrafrique. C'est un des derniers billets que tu as publié depuis Bangui.
Oui.
On remonte à octobre 2013. Le titre, c'est « Centrafrique, un coup de fil, pas comme les autres ».
Oui, je me souviens du titre.
Ok, je vais lire le début. « Bangui, un soir d'octobre 2013, il était minuit. Au moment où j'allais me débarrasser du dernier bourdonnement des moustiques pour plonger dans mon sommeil, mon téléphone se met à vibrer. Un appel masqué à l'autre bout du fil, une voix féminine me fait patienter. L'agréable voix était celle d'une Européenne. Un homme reprit le téléphone, la voix me sembla familière. Je n'osais pas croire à l'idée de la personne à qui j'associais la voix. François Hollande, l'homme qui veut intervenir par procuration en Centrafrique. Depuis, la France est intervenue en Centrafrique.
Oui, oui.
Êtes-vous bien celui qui se fait appeler le geek du Sud? Ça, c'est donc François Hollande qui te dit ça.
Oui.
Me demandait Monsieur Hollande. Oui, Monsieur Hollande, oui, son Excellence, balbutiai-je en répondant.
Oui, je me souviens de cet article et c'est un article que j'ai préparé pendant très longtemps. J'ai défait le titre et je me suis dit pourquoi pas un titre comme celui-là, un titre qui ne dit pas son contenu en fait. Je peux dire que c'est un article qui n'a pas très marché parce que juste à cause de son titre, mais ceux qui sont arrivés à le lire l'ont compris et j'ai eu beaucoup de messages après cela.
Je te coupe parce que je vais continuer à lire. On va peut-être pas encore donner la chute. Continuation de la discussion avec Monsieur Hollande.
Oui.
Il enchaîna en m'expliquant le pourquoi du coup de fil. Qu'il lisait mon blog et qu'il voulait avoir des témoignages sur la situation centrafricaine auprès des gens qui, comme moi, vivent ces réalités. Il parlait plus distinctement que quand je l'écoutais à la radio ou à la télé. Il tenait un discours semblable à celui du 24 septembre 2013 à New York, devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il avait encore réaffirmé sa crainte de voir la Centrafrique se transformer en Somalie. Nerveux, je l'écoutais et j'acquiesçais quand il le fallait, sans trop parler. C'est alors qu'arrivaient ses interrogations. Il voulait avoir mon opinion. Monsieur le Président, la Centrafrique court sur les pas du Rwanda, de son génocide. Souvenez-vous, la Fédération internationale des droits de l'homme dénombrait déjà 400 meurtres il y a quelques semaines. Ces dernières semaines, il y a eu Bohang, Buka, Bosangoa.
Oui, des villes que je connais bien pour avoir travaillé avec des humanitaires. Et en tant que logicien d'une ONG humanitaire, j'ai vraiment vécu cette crise avec sa terreur. Donc je tenais à envoyer un message à son Excellence, Monsieur le Président de la République de la France. Je le dis ainsi, par respect, et aussi pour dire, d'une manière ou d'une autre, il devait intervenir à temps pour éviter que la Centrafrique puisse être un second Rwanda.
Je vais lire la chute, comme ça les gens comprendront le sens général de cet article. Oui. Mon téléphone s'est brusquement éteint, la batterie était déchargée, je me noyais dans ma sueur, mon drap était tout trempé, l'électricité n'était toujours pas rétablie. Je venais de réaliser que j'avais rêvé et que je parlais à Monsieur Hollande dans mon rêve. Au moins, j'ai pu me défouler et crier haut les douleurs d'une Syrie oubliée qui tente de sortir de l'anonymat.
Oui, une Syrie oubliée parce que c'était...
Une époque où on parlait beaucoup de Syrie et de ce qui se passait en Syrie et très peu de Centrafrique.
Et très peu de ce qui s'est passé en Centrafrique.
Depuis, tu es retourné au Tchad où tu écris beaucoup plus sur des questions techniques, notamment un billet par exemple où tu dis 10 manières de reconnaître un blog tchadien.
Oui, j'ai juste placé 10 stéréotypes avec 10 blogs et je me suis rendu compte que sur ce blog par exemple, la quasi-totalité des blogs étaient animés de l'extérieur.
Donc ça, c'est le premier point commun repéré.
Oui, j'ai dû repérer. Et ça,
c'est pas le cas des gens qui sont autour de cette table.
Non, et c'est ce qui m'a incité à pouvoir motiver les autres, mon entourage à bloguer.
Deuxième, oui. Politico-militaire, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Troisième, ça parle de Déby à l'extrême, donc ça parle du président Déby à l'extrême.
Oui.
Quatrième, copier-coller, plagiat.
Plagiat, oui. Beaucoup de blogs le font et aussi quelques sites internet. Sans citer les sources, ça c'est ce qui m'a vraiment touché.
Cinquième, mauvaise qualité des postes.
Beaucoup de fautes.
Fréquence irrégulière.
Oui.
Sans commentaires.
Oui, il y a des blogs qui ne sont pas du tout commentés. Et des fois, j'ai fait aussi partie de l'exemple.
Design médiocre.
Ne sont pas du tout de bons designers.
Auteur pas anonyme.
Oui.
Enfin, sa cause très politique. Donc on revient pour finir, au fait que en plus d'être politico-militaire, ça parle de politique tout le temps. Alors Salim, tu as fait des émules ici à N'Djamena. On va en rencontrer quatre. Bonjour Docteur Tux.
Bonjour Ziad.
On peut donner ton vrai nom ou pas?
Oui.
Ali Khodal Mohamed.
Oui.
Tu es donc connu sous le pseudonyme Docteur Tux. Qu'est-ce que ça veut dire Docteur Tux?
En fait, Docteur Tux, ça fait allusion à la mascotte de Linux. Le Tux, c'est le pingouin.
Linux, c'est un système d'exploitation.
C'est un système open source, voilà.
Ta spécialité, c'est le logiciel libre, mais si on prend un article récent qui date du 20 novembre, qui s'appelle « Lettre à un médecin », là, tu parles pas du tout des nouvelles technologies.
Oui, bien sûr. Maintenant, je parle un peu plus de tout, mes envies, ce qui me fait mal, tout ce que je vois.
Et c'est donc tout naturellement que un docteur, le docteur Tux, adresse ce message à un médecin imaginaire.
À un médecin imaginaire.
Paix sur toi, cher médecin d'ici et d'ailleurs. Je t'écris cette lettre pour te faire part de mon courroux. Te souviens-tu de l'article 76 du Code de la Santé publique? Sinon, je te rafraîchis un peu la mémoire. Tout médecin, quelle que soit sa forme d'activité professionnelle, est amené à remettre aux personnes qu'il a examinées tantôt une ordonnance, tantôt un certificat. Ce document signé engage sa responsabilité. Le médecin doit donc consacrer à sa rédaction toute l'attention et la rigueur nécessaires. J'espère que tu te souviens maintenant. Tu es un médecin, donc tu as une mémoire fraîche. Alors pourquoi délivres-tu des certificats médicaux aux personnes que tu n'as pas examinées, de plus aux personnes que tu n'as même pas vues?
Ce que nous avons ici au Tchad, d'ailleurs je l'ai fait moi-même, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça.
Tu l'as fait toi-même, c'est-à-dire que tu as déjà demandé un certificat à un médecin que tu n'avais pas vu.
J'étais allé à l'hôpital pour faire le certificat médical, on m'a dit le certificat c'est à 500 francs. Je donne le 500 francs plus l'acte de naissance, dans 20-30 minutes on me délivre, et là je vois que j'ai écrit, je soutiens médecin tel, avoir examiné tel, et qu'il est apte ou bien qu'il est capable de faire ce boulot. Parfois, il n'a même pas regardé. Il y a certains qui envoient seulement leurs amis.
Autre fait de société dont tu as parlé dans ton blog,
oui.
Ça s'appelle l'article « Et si je faisais ou si j'avais des relations intimes avec mes élèves ?» Point d'interrogation.
Voilà. En fait, ça, c'est un article. D'abord, je rappelle, je suis formateur en informatique au lycée La Fidélité, mon ancienne école. Je me rappelle, une fois, j'ai fait du contrôle, j'ai ramassé des copies de mes élèves. J'étais rentré tard, donc je n'ai pas pu corriger. Le lendemain, tôt le matin, avant même de me réveiller, il y a un ami qui s'est pointé devant ma porte. Tac, 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 entrez. Je l'ai fait entrer. Là, Il a vu ses copies. Il me demande, ce sont les copies de tes élèves? J'ai dit oui. Et tout à coup, il regarde, la première copie, c'était la copie d'une fille.
Il dit, cette fille a un joli prénom, voilà. Donc elle doit être belle.
Voilà. Et ensuite, il me dit, donne 18 points à cette fille.
18 sur 20.
18 sur 20. Parce que je l'aime. Moi, je me suis étonné. Comment ça, tu n'as même pas regardé la fille? Tu ne connais absolument rien d'elle. Comment tu aimes cette fille? Il dit, laisse tomber. Pourquoi tu ne profites pas de cette occasion? Puisque tu es professeur, tu as tas de filles d'air dans ton lycée, il y a tas de jolies filles. Pourquoi tu ne leur donnes pas de points pour que tu puisses sortir avec elles?
Dans le texte, tu l'appelles imbécile.
Voilà.
Mais à travers ce texte, à travers cette histoire personnelle qui apparemment a eu lieu, qu'est-ce que tu souhaites dénoncer? Tu souhaites dénoncer quelque chose de plus vaste dans le pays?
Voilà, je souhaite dénoncer quelque chose de plus vaste, principalement les relations intimes entre professeurs, élèves ou bien entre professeurs, étudiants. Parce que là, d'abord, ça contribue à l'analphabétisme, la baisse des niveaux. Les filles ne veulent absolument pas travailler parce qu'ils ont quelque part un professeur, un professeur copain qui peut leur donner une note. Donc, il peut sortir avec ses filles. À la fin, ils ont une note pour passer en classe supérieure. Donc, c'est garanti pour elles. Non seulement ça, mais parfois, ces filles seront abusées sexuellement aussi. Voilà, la plupart sont adolescentes, donc c'est pas du tout. Ça va engendrer des problèmes sociaux. D'abord entre ces professeurs et ces filles et les parents, et ensuite ça va engendrer des problèmes entre le professeur et les élèves. Parce qu'il se peut que ce professeur aime ou bien sorte avec la même fille que notre étudiant aussi l'aime. Donc ça va engendrer un problème entre ces deux personnes.
On va continuer à explorer rapidement ton blog. Autre article, chez moi, le code de la route n'est qu'une expression et le permis de conduire n'est qu'une formalité. Tu as des titres efficaces, hein?
Voilà. Donc le code de la route, ici il n'y a pas ce qu'on appelle le code de la route. Je ne sais pas si les gens connaissent ou mieux comprennent ce qu'on appelle le code de la route.
Je vais te lire, comme ça les gens vont voir un peu comment tu écris aussi. Voilà. Une ville dont le nombre d'engins à deux roues notamment ne cesse d'augmenter. N'Djamena est reconnue aussi par ses innombrables accidents de circulation. Avec un taux d'analphabétisme aussi important, le code de la route n'est qu'une simple expression que personne ne respecte. Résultat, il y a d'innombrables accidents tous les jours. La plupart des victimes sont des enfants et des jeunes. Conduisant la plupart sans permis, les jeunes font souvent des accidents de circulation. D'ailleurs, le permis n'est qu'une formalité pour éviter la police ou la brigade de circulation routière. Passer ou non par une auto-école, les jeunes djaménois qui savent conduire une voiture ou une moto auront facilement leur permis de conduire avec l'aide d'un parent qui travaille à la direction de police ou l'aide d'un ami policier.
Voilà, c'est ce qui se passe ici justement. Donc la plupart des jeunes qui conduisent, que ce soit une voiture ou bien une moto, ne sont pas passés par les auto-écoles. Il y a un parent qui a des véhicules, deux ou trois véhicules à la maison. Ils peuvent monter sur ces véhicules sans même connaître le code de la route sans avoir un permis. D'ailleurs, certains pensent à faire sortir le permis juste pour éviter la police. Parce que quand la police va nous arrêter, elle nous demande d'abord le permis.
Quel est l'effet de ces textes qui dénoncent des règlements sociaux sur tes concitoyens, sur les personnes qui te lisent, sur les proches?
Bon, certaines qui me disent vraiment c'est ce qui se passe, mais ils ne savent pas comment l'exprimer, comment dire ça. Tant mieux que je l'ai dit. D'autres, par contre, ont des objections par rapport à ça. Ça, ce sont des partisans ou bien un parallèle à délivrer un permis, etc.
Donc, ça suscite un débat?
Voilà, ça suscite un débat, vraiment un débat.
Un débat en ligne, un débat hors ligne, comment ça se passe?
Bon, en fait, pour tous ceux qui ont lu les articles, je crois que ils peuvent commenter, puisque, en fait, c'est ça l'idée. Ils peuvent commenter, laisser leurs commentaires. En fait, c'est ça. Je veux avoir leur point de vue. Chacun peut dire ce qu'il ressent par rapport à ça. Et ensuite, on va essayer de discuter ensemble.
On marque une courte pause dans l'atelier. Nous nous retrouvons de l'autre côté du flash, toujours avec nos blogueurs, nos mondo-blogueurs du chat. À tout de suite. Atelier des médias, merci de nous rejoindre. Si vous n'étiez pas avec nous dans la première partie de l'émission, nous sommes cette semaine en public au Centre catholique universitaire de N'Djamena et nous sommes en compagnie de 5 blogueurs de notre plateforme Mondoblog. Nous parlons de leur expérience de blogueur et du contenu des écrits ou des dessins de leur blog.
l'atelier des médias, la web émission participative. Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Bonjour Patrick Benga.
Bonjour Ziad.
Tu es donc un des blogueurs de Mondoblog, mais tu as une particularité, toi, c'est que tu dessines.
Oui, effectivement. D'abord, j'ai commencé par le dessin et la caricature. Je dessine d'abord dans des journaux de la place, tels que N'Djamena Biebdo, Le Miloir, etc. Donc, j'ai développé l'art de la caricature dans ce journal. Et ensuite, j'ai vu qu'à travers le dessin, je peux passer plein de messages d'une manière humoristique. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas grandir ma vision au niveau de l'Internet. C'est pourquoi j'ai mis maintenant les caricatures sur un blog pour permettre à un large public de voir ce que je fais un peu.
Alors, je précise que tu es aussi auteur de bande dessinée. Hein.
Effectivement.
Tu as écrit deux albums.
Deux albums de bande dessinée. Il y a d'abord « Demain, il fera jour » qui parle avec humour des événements vécus lors de l'arrivée des rebelles le 2 et 3 février. Et il y a aussi « Permis de conduire ».
Permis de conduire,
N'Djamena.
Nous parlons du sujet de code de la route et des permis de conduire dans la première partie. Et donc, tu as choisi de passer du papier, enfin de rester dans le papier, mais de passer le pas de l'Internet, c'est ça ? Tu as parlé de tes motivations. Est-ce que ça a été simple pour toi de faire ce pas ?
C'est pas du tout facile parce que, dans un premier temps, moi, je suis pas du tout un habitué du net. Alors, je me suis arrangé avec l'équipe de l'IFT,
l'Institut français
au Tchad, à porter ma candidature pour le concours.
Donc c'est l'Institut français qui t'a inscrit au concours.
Qui m'a inscrit au concours, puisque moi je ne manipule pas bien l'outil, l'Internet, donc c'est comme ça.
Tu dessines la société, tu critiques la société à travers tes dessins, tu fais des caricatures qui mettent en scène des personnages, billets récents ou dessins au pluriel récents. Ça a pour titre « La baisse de niveau au Tchad, une équation difficile ». Donc dans le titre, tu le dis pas, mais ça parle de baisse de niveau scolaire, c'est ça ?
Oui.
Alors je vais essayer de donner à voir ce que tu mets dans tes dessins. Donc il y a deux dessins pour expliquer la baisse du niveau scolaire. Dans le premier, on voit deux parents qui se disputent sur le chemin de l'école, en gros. Il y a la maman qui veut envoyer son enfant dans une bonne école, une école payante. Et il y a le papa qui dit, non, on n'a pas les moyens, ça coûte trop cher. Et le dialogue entre les deux personnages, c'est la maman qui dit, Déby Itno, donc le président Déby, met bien ses enfants dans des écoles privées, pourquoi pas nous ? Point d'interrogation.
Tous les enfants des cadres, des hauts cadres de ce pays sont dans des bonnes écoles. Ils sont dans des écoles privées, soit en N'Djamena ou soit à l'extérieur, dans des pays bien développés, dans les universités, pour ceux qui ont eu le bac. Dans les écoles publiques, au fait, c'est dans la grande majorité, c'est les parents pauvres qui mettent leurs enfants là. Et du coup, l'éducation est aussi en baisse dans ces écoles publiques parce que il y a d'abord un manque d'enseignants qui est un problème. Et de deux, il y a manque de matériel de travail. Parfois, les anciens n'ont pas les outils nécessaires pour faire passer le message désiré. Donc tout ça, ça fait que dans les écoles publiques, il y a ce baisse de niveau qui s'est fait.
Ton deuxième dessin, donc tu expliques ou tu essayes d'expliquer cette situation avec deux dessins. Ton deuxième dessin est découpé en deux parties. Ouais. En haut, on voit un responsable, probablement un responsable politique, qui dit en gros que les enseignants qui ne vont pas rejoindre leur poste, auxquels ils ont été affectés, seront radiés du registre, donc ne toucheront plus d'argent. Et en dessous, on voit deux enseignants, un homme et une femme, qui sont donc des collègues, qui discutent entre eux. L'homme dit, moi là où on m'a affecté, il n'y a pas de banque alors que je touche mon argent par virement bancaire, je touche mon salaire par virement bancaire. Et la dame qui dit, moi il n'y a même pas de réseau téléphonique. Et donc c'est pour dire que les problèmes sont plus compliqués qu'ils n'y paraissent. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui ne rejoignent pas leur poste, mais qu'on les envoie dans des postes qui sont incohérents par rapport à leurs besoins quotidiens, par rapport à leur vie quotidienne.
Effectivement, c'est ça. Dans la plupart des cas, les enseignants qu'on affecte en province ont au préalable des activités ici à N'Djamena avant leur intégration, dont il y a le préceptorat qu'ils font dans les quartiers pour gagner. Et il y a les écoles privées où ils enseignent pour gagner. Donc quand on les affecte dans les provinces, leur désir reste toujours en N'Djamena. Parce que dans les provinces, il n'y a pas possibilité de faire des préceptorats, il n'y a pas possibilité d'enseigner dans une école privée.
Alors, préceptorat, c'est des cours particuliers.
C'est des cours particuliers à domicile. Donc, tous ces fonctionnaires de l'éducation nationale sont en N'Djamena. Ils sont en N'Djamena, pas pour deux jours, trois jours, mais parfois pour un mois. Et entre-temps, les élèves dans les provinces galèrent. Donc, ça aussi, ça contribue à l'évolution du reste du niveau dans nos systèmes scolaires.
Autre sujet d'actualité que tu as choisi de traiter dans ton blog, la pénurie de carburant, c'est d'ailleurs le titre du billet, c'est la pénurie de carburant à N'Djamena. Et là, tu décides de la raconter à travers deux dessins. Le premier montre ce qu'on a pu voir d'ailleurs dans des vidéos, hein, c'est les files d'attente interminables devant une station-service. Simplement, là, tu as décidé d'appeler la station-service « Station La Mafia » et de critiquer à travers le texte les prix exercés par ces stations de service à l'occasion de la pénurie, donc qui sont des prix exorbitants.
Cette pénurie n'a pas normalement le droit d'avoir lieu parce que
le Tchad est un pays producteur
de pétrole et de surcroît avant même la révision des machines des raffineries de Diarmaya, il y a du stock qui a été constitué pour pallier à toute éventuelle pénurie. Mais curieusement, on s'est rendu compte que ce truc a eu lieu quand même. Tout simplement parce que les gens ont confisqué les stocks, soit chez eux, ou soit dans leur station pour vendre plus cher. Et le président de la République lui-même a constaté lors de son descente à la raffinerie que les citernes qui sortaient étaient plus nombreux que les citernes qui ravitaillaient la ville de N'Djamena. Les citernes qu'on amène au nord Centrafrique, les citernes qu'on amène au nord Nigeria. Et pourtant, on se rend compte qu'au nord Centrafrique et au nord Nigeria, ceux qui opèrent là-bas, c'est des djihadistes du Boko Haram. Ce n'est que eux qui peuvent payer du carburant au prix fort, à 500, 800 000 francs le fût. Les gens préfèrent amener le carburant et vendre à ces gens-là au nord Centrafrique parce qu'il y a la Séléka qui a besoin du carburant. Donc on fait sortir le carburant et on le vend là-bas au prix fort.
Et l'autre dessin qui traite de la pénurie d'essence, lui s'intéresse vraiment à la vie quotidienne et il montre comment cette pénurie touche les moulins dans les quartiers, les moulins où les familles vont moudre leurs différents produits qui vont donner des farines et donc comment ces moulins ne peuvent plus fonctionner à cause de la pénurie.
Effectivement, parce que dans certaines stations-service, on ne sert pas dans des bidons. Donc il faut directement servir dans les réservoirs des motos, dans les réservoirs des véhicules. Alors que les moulins, on ne peut pas déplacer le réservoir du moulin et amener à la station. De ce fait, les prix ont augmenté dans les moulins. Et parfois, il n'y a pas de moulin carrément parce que le propriétaire ne peut pas en mettre un peu du carburant dans son réservoir pour faire tourner les machines. Donc ça touche presque les ménages, voire même des services qu'on a l'habitude d'utiliser, les photocopies par exemple. Le gars, il ne parvient pas à trouver du carburant dans son groupe électrogène, alors du coup, ça entrave presque toutes les activités que nous effectuons ici.
Je pourrais citer d'autres exemples. Tu as notamment consacré une bande dessinée, donc une série de dessins aux inondations avec différents traitements, différentes conséquences, comme tu le fais à chaque fois dans tes dessins d'un fait ou d'un problème lié à l'actualité. Je veux bien, pour finir, que tu nous dises ce que ça t'a apporté. Ça fait plusieurs mois que tu blogues, tu as publié peu de billets, mais tu as quand même publié certains billets. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quels sont les retours que tu as eus? Est-ce que ce que tu attendais est arrivé?
Ma vision en ouvrant ce blog, c'est tout simplement partager mes opinions, faire voir les réalités que nous vivons dans ce pays à ceux qui n'ont pas la chance de les vivre comme nous, ou bien faire montrer les réalités à ceux qui sont derrière leur bureau et ils pensent que tout va bien dans ce pays. C'est tout simplement ça.
It's like struggle sometimes. Welcome to the wonderful life. Sometimes of the writers of rhymes, where the life of crime is kind of sublime. Mics are a lifeline, empires are topple. I've been nice since couple on Nightline. Watch me sneak upon you like white wine. Refine and the age of the right kind, but at the right time. Absorb it like infrared radiation. We face it. Too much schooling and not enough education. You saying you in the building, the building need renovation. We building and we destroying like natural transformation. Environmental disasters, tragic, the greenhouse gases breaking down the ozone layer like they was amino acids. These rappers are so plastic. I'm in recycling, heightening and enlightenment. Absorbing like a vitamin. You listen to the hype, I'm prescribing you niggas Viking and nah. Fuck that, you need to wake up like a viral. Yeah, it's like a jungle sometimes. Welcome to the wonderful life sometimes. At the writers of rhymes, where the life of crime is kind of sublime. Mics are a lifeline. It's like a jungle sometimes. Welcome to the wonderful life sometimes. At the writers of rhymes, where the life of crime is kind of sublime. Mics are a lifeline.
Bonjour Emmanuel Djounoumbi.
Bonjour Césiat.
Toi aussi, tu viens de rejoindre, viens il y a quelques mois, la plateforme Mondoblog. Ton blog a pour titre l'Afrique émergente, c'est ça?
Effectivement, l'Afrique émergente.mondoblog.org. Le mot émergence est comme une nouveauté au Tchad et cela se traduit simplement par une expression dans la pratique, nous ne ressentons rien. C'est un peu ce qui m'a poussé à nommer mon blog l'Afrique émergente.mondoblog.org.
Toi, tu n'es pas journaliste, hein?
Je ne suis pas journaliste. J'ai une maîtrise en sociologie, anthropologie, puis un master en géomatique, aménagement et gestion des ressources. Actuellement, je suis humanitaire dans la région du lac Tchad. Donc, je travaille avec une ONG française du nom ACTED. Donc nous assistons un peu les populations vulnérables.
Le lac Tchad qui est tout près de N'Djamena. Hein.
De N'Djamena, c'est ça, 100 quelques kilomètres d'ici.
Qu'est-ce qui t'a encouragé, toi, à commencer à tenir un blog, à écrire en tant que sociologue, en tant qu'employé d'agence humanitaire?
Bien, ma passion du blog est née, disons, lors d'un atelier organisé par le Centre technique de coopération agricole à Brazzaville. Et pendant cet atelier, j'ai rencontré aussi un monoblogueur très actif d'ailleurs, en la personne de Baba Mahamat. Donc il nous a aussi un peu, nous tous les participants de ressortissants de l'Afrique centrale, et à la fin de l'atelier, il nous a un peu parlé de Mondoblog, il nous a un peu parlé de tous ces projets. Donc j'avais même créé à la fin de l'atelier de Brazza un blog sur l'agriculture, mais je n'avais pas trop d'idées. Bon, je me suis dit, pour être vraiment actif, il faut regagner une communauté dynamique. Donc il fallait peut-être participer au concours de Mondoblog, et top, quand c'est lancé, Baba, il m'a filé l'information et c'est comme ça que j'ai postulé et j'ai été aussi retenu.
Et quel est ton objectif à travers cette activité?
Mon objectif, c'est un peu de participer un peu à la visibilité d'abord de ma zone. Je peux pas d'abord parler même de mon pays, je parle d'abord peut-être de mon arrondissement, parce que là, ce que dit l'État, souvent, c'est pas ce que nous vivons. Donc, mon blog, j'ai pas créé ce blog pour critiquer l'État, mais ce blog se veut un peu le porte-parole du peuple d'en bas, de ces populations misérables, de ces populations qui souffrent. Donc, pour moi, ça ne vaut pas la peine de dire aux Tchadiens que vous vivez bien, vous allez être pays émergent. Parce que ici en Afrique, ça nous choque quand on vous dit que c'est ce que vous êtes, quand dans la pratique, vous ne vivez pas cela. Vraiment, ça fait trop mal, quoi. Donc, je sais quand même que l'État fait des efforts dans plusieurs secteurs, parce que nous sommes un pays qui revient de très loin. Donc, il faut pas trop abuser dans la publicité, émergence, tout cela, tandis que notre population, notre jeunesse est en train de souffrir quelque part.
Ton premier billet a été consacré à ce choix de devenir blogueur. Il s'appelle « Bloguer au Tchad, un vrai sacrifice ». Je vais te lire pour donner une idée. Le métier de blogueur au Tchad n'est pas assez connu du public. Exercer cette activité nécessite aussi un sacrifice important. À travers cet article, qui est le premier posté sur mon blog, j'aimerais donc exposer les multiples problèmes auxquels font face les blogueurs au Tchad. C'est aussi le défi qui m'attend en tant que nouveau blogueur tchadien. La première difficulté pour le blogueur tchadien est liée aux problèmes énergétiques. Le problème d'accès à l'électricité reste un fait réel au Tchad qui prône son émergence à l'horizon 2025.
Oui, et là, c'est une difficulté et un problème réel, parce que là, j'habite une zone qui n'est pas électrifiée. Et pour bloguer, souvent, je rédige mon article sur ma tablette, ensuite, je le balance sur mon ordinateur portable, et j'utilise d'abord une connexion qui provient du Cameroun, la société Camtel, qui est pour moi un peu moins chère, et donc, j'ai fait face à beaucoup de difficultés. Souvent, je viens à la faculté de médecine.
Je parcours chaque jour plus de 10 km pour aller à la bibliothèque ou à la faculté de médecine pour tout juste avoir accès à l'électricité.
Effectivement, pas pour chercher de la connexion, mais pour tout juste avoir accès à l'électricité.
La deuxième difficulté est celle d'accès à Internet. On en a déjà parlé, on en a aussi parlé la semaine dernière. La troisième difficulté est relative à l'audience. Bloguer au Tchad ressemble, dans une certaine mesure, à s'adresser aux sourds.
Effectivement, parce que là, vous écrivez un article, vous n'avez pas de retour, vous n'êtes pas motivé, vous pouvez vous dire que bon, là, personne ne vous lit. À quoi sert donc d'écrire ? Là, ça n'encourage pas, ça ne motive pas.
La quatrième et dernière difficulté reste la peur. Blogueur signifie au Tchad celui qui critique, qui attaque le pouvoir et qu'on peut poursuivre, emprisonner, etc. Face à cette peur, on se retient souvent de traiter tous les sujets.
Quand j'ai d'abord appris à mes amis que je vais bloguer sur la plateforme de Monoblog, bien, puisque dans leur perception, bloguer, c'est un peu critiquer, parler de choses négatives et c'est exposer sa vie. Donc j'ai eu quand même du mal, pas trop de félicitations, c'était un peu des messages de découragement. Malgré cela, j'ai quand même dit que je relèverai le défi.
Donc ça, c'était ton premier billet. Un autre billet, tu n'as pas pu en écrire beaucoup. Dans ces conditions, j'imagine, c'est vraiment pas simple. Un autre billet qui montre aussi ton talent pour trouver des titres. Djamena, vitrine ou latrine? Point d'interrogation.
Là, je m'attaque maintenant à, disons, l'image de notre capitale sur nos écrans de télévision ou bien sur les chaînes internationales n'est pas cette image que les citoyens lambda vivent, que moi je vis, parce que là, moi, j'aimerais plutôt parler souvent de mon expérience, puisque je suis tchadien, je vis dans des conditions aussi que je connais, j'ai côtoyé des amis, même s'ils sont d'une classe un peu supérieure, je sais à quelles difficultés ils font face. Donc, j'aimerais dire, face aux multiples défis qui restent encore à relever, il ne faut pas que l'État passe son temps à un peu faire du développement une publicité. Il faut s'attaquer aux problèmes réels, puisque là, je suis dans un 9e arrondissement.
C'est là où tu vis.
D'une capitale, mais là, ça ne ressemble même pas à une banlieue, parce que là, une banlieue, c'est quand même un peu structuré aussi ailleurs, mais chez nous, ça ne va pas. Et là, c'est carrément.
Tu décris dans le détail ce 9e arrondissement où tu vis, un habitat précaire, avec les maisons construites en terre battue, des problèmes d'inondation avec donc chaque année des personnes qui vivent la peur au ventre face à ces inondations, la défécation à l'air libre et de manière sauvage, le manque de politique et de gestion des ordures ménagères, on l'a évoqué tout à l'heure aussi, la divagation des animaux domestiques, des quartiers homogènes également.
Des quartiers homogènes, on vit par ethnie souvent, donc quand vous venez ici, on vous dit que peut-être c'est le quartier des Massa, c'est le quartier des Ngamba, donc c'est des ethnies qu'on cite comme ça. Et là, je ne sais pas comment peut-on prôner la paix, disons, le vivre ensemble dans ce contexte, quoi. Si on habite des quartiers où on retrouve simplement son identité, cela ne favorise pas, à mon avis, le développement sur le plan culturel. C'est un obstacle.
Alors, tu l'as dit, quand tu as annoncé à tes proches que tu allais devenir blogueur, ils t'ont tous dissuadé ou ils t'ont dit fais attention, etc. Oui. Maintenant que tu as publié quelques articles, est-ce qu'ils les ont lus? Est-ce qu'ils ont réagi? Est-ce qu'ils ont un autre regard sur cette activité?
bien là, après avoir lu mes articles, quand même, il y a quelques félicitations, il y a eu quelques débats sur Facebook, parce que souvent, les lecteurs, ils ne débattent pas, ils ne font pas de commentaires, mais maintenant, quand on se retrouve sur Facebook, ils me félicitent, ils disent oui, voilà, on a lu ton article, il est très bien. C'est vraiment ce que nous vivons, donc, continuez dans cette lancée, c'est quand même encourageant.
On va terminer ce tour de table, tour de découverte de certains de nos blogueurs présents au Tchad avec toi, Mahamat Nour Assabala. Bonjour.
Bonjour.
Ton blog à toi s'appelle La Voix du Tam Tam.
Tam-tam.
Qu'est-ce que c'est La Voix du Tam Tam?
Tam-tam, en Afrique, c'est un outil.
Un instrument non. même
Oui, un instrument pour faire rythmer la musique et la danse. Parfois, le tam-tam n'est pas seulement un instrument pour rythmer la musique, mais aussi pour faire passer les messages.
Donc c'est un moyen de communication, le tam-tam?
Oui, c'est un moyen de communication.
Et pourquoi tu as choisi du coup de donner ce nom à ton blog? Même si c'est un moyen de communication, il y en a d'autres, ça aurait pu s'appeler la voix du téléphone, etc.
J'ai choisi ceci parce que moi aussi je vais faire passer le message. C'est-à-dire en informant la population tchadienne de toutes les réalités qui se passent et parfois qui ne sont pas relatées par la presse. La presse tchadienne particulièrement ne relate pas la réalité que vit le tchadien. Donc c'est pour cela que moi en tant que blogueur, j'ai voulu participer à cette prise de conscience pour que le message passe comme la population en a besoin.
Tu parles par exemple dans un billet récent de la langue française. Ce billet a pour titre « Il y a des enfants qui sont à côté de nous, c'est pour ça que parfois on entend des enfants ». On est en public, on est en plein air, hein, je le précise. Donc ce billet s'appelle « Les élèves tchadiens et la langue de Molière ». Et tu décris une situation qui t'inquiète.
Oui, l'expression de la langue française au Tchad, elle n'est pas du tout utilisée par les tchadiens à l'école. Les élèves tchadiens à l'école, ils se discutent souvent en arabe. C'est ce qui me préoccupe beaucoup plus.
C'est bien en même temps de parler sa langue, non?
Oui, c'est bien de parler sa langue, mais à l'école, en principe, la langue dans laquelle on instruit, en principe, on doit le parler pour qu'on puisse se défendre bien.
Je vais te citer. Les élèves tchadiens, surtout ceux de la terminale, et leur façon de s'exprimer en français me font honte. Étant un tchadien, passé par ce stade-là, je m'empresse de meubler ce questionnement. Pourquoi passer 12 ou 13 ans sur le banc de l'école et ne pas savoir bien parler la langue dans laquelle on étudie? Et tu continues. Je vois aujourd'hui avec un grand étonnement le fait que les élèves tchadiens de la terminale qui, à quelques mois d'affronter l'examen du bac, ne savent pas s'exprimer bien en français, langue dans laquelle ils composent le baccalauréat. Souvent, en plein cours, ils parlent entre eux en arabe et très peu peuvent s'exprimer loyalement avec leurs enseignants.
La langue française, c'est la langue à laquelle les élèves fréquentent où ils puissent aussi bien dérouler, bien faire passer les examens du bac et qu'ils ne savent pas bien s'exprimer. Donc c'est pour cela que j'ai voulu bien adresser ce message à la jeunesse tchadienne et à l'État, au gouvernement tchadien, de sensibiliser la jeunesse et que de former des professeurs ou bien des enseignants de profil pour qu'ils puissent enseigner aux élèves de parler correctement en français.
On va conclure avec toi, Salim. Qu'est-ce que tu souhaites qu'elle apporte à ton pays, cette parole des blogueurs, cette parole du citoyen lambda, comme l'a dit un des invités?
Nos attentes, c'est il faudrait que les citoyens soient écoutés, que les gens cessent de faire taire les voix, mais qu'ils écoutent et que les débats s'ouvrent au lieu qu'on réprime. Et aussi, il faudrait qu'on pense à faire avancer les idées. Quand je dis faire avancer les idées, c'est de penser à évoluer ensemble dans nos différences, dans nos divergences de points de vue. Et là, l'un de nos grands défis, c'est d'ouvrir ici à N'Djamena un espace de coworking.
Un espace de travail collaboratif.
Où tout le monde puisse venir travailler avoir accès à Internet, à l'électricité. Du moins, ça serait pour nous le Centre africain de technologie qui est en train de venir. Et on le demande maintenant. Et ça peut se faire juste avec des petits moyens.
Merci Salim, merci à tous les cinq d'avoir participé à cette émission. On trouvera sur l'atelier des médias la version longue de cette table ronde. On trouvera des liens, des informations complémentaires concernant votre activité de blogueur. Et bien entendu, si les auditeurs souhaitent visiter, découvrir vos blogs, ils sont accessibles sur la plateforme mondoblog.org. À bientôt.
À bientôt. Merci Ziad, merci Pierre d'être venu.
Rejoignez la communauté de l'atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'atelier des médias spécial Tchad numéro 2, proposé par Marie-Catherine Beut, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barra, Dilette Sadawi, Jules Nardouek, Raja Yahyaoui, Simon Decreuse, Pierre Chaffranjon et Ziad Malouf. C'était aussi l'émission de tous nos mondoblogueurs et de toutes nos mondoblogueuses. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre, nous lire, nous contacter, nous commenter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org, libiablog.org et arablog.org. Je rappelle que arablog, c'est l'équivalent en arabe de notre communauté Mondoblog. Salut à toutes et à tous. Je profite de la fin de l'émission pour remercier également toutes les personnes qui nous ont accueillis au Tchad, en particulier les équipes de l'Institut français et bien entendu l'équipe de Wenak Labs.
C'est fini ou c'est pas fini? Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.